Décryptage, Marie Cazadebet.
Les Hongkongais, à nouveau dans la rue ce mardi. Certains ont l'intention même de passer la nuit près du Parlement ou demain, mercredi. Le projet de loi sur l'extradition sera examiné en deuxième lecture. Déjà, dimanche, près d'un million de personnes, soit un habitant de l'archipel sur sept, se sont mobilisés contre ce texte qui pourrait les confronter à la justice chinoise, alors que Hong Kong bénéficie de son propre système judiciaire.
Cette loi est très problématique. Elle met les gens de Hong Kong en danger. Si la loi est votée, alors les sociétés étrangères vont quitter Hong Kong et Hong Kong va devenir une ville morte. C'est risqué pour les classes moyennes aussi.
Ce projet de loi est perçu comme une nouvelle atteinte au principe d'un pays, deux systèmes en vigueur depuis la rétrocession du Hong Kong à la Chine en 1997. Alors à quel point Pékin tente de grignoter l'autonomie de l'archipel et par quels moyens ? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Jean-François Huchet.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous présidez l'INALCO, c'est l'Institut français des langues et civilisations orientales. Et vous avez vécu 10 ans à Hong Kong. Un mot peut-être d'abord sur ce projet de loi donc discuté à partir de demain par le Conseil législatif, l'Assemblée nationale de Hong Kong. Que permettrait-il d'impossible encore aujourd'hui ?
En fait, il permettrait d'extrader toute personne qui est sur le territoire hongkongais et qui aurait commis un crime défini de manière extrêmement large vers un pays tiers et surtout vers la Chine populaire.
On entendait cette dame dans l'introduction parler des entreprises et finalement des hautes classes, mais ça ne concerne évidemment pas que les entreprises étrangères.
Non, bien sûr, c'est un peut concerner aussi, bien sûr, des activistes politiques qui sont tout de même assez nombreux et qui, depuis 1997, considéraient que Hong Kong était tout de même un refuge. Donc on a certaines ONG, des syndicats qui sont présents en Chine, et qui sont présents à Hong Kong, pardon, et qui, bien sûr, travaillent et enquêtent sur ce qui se passe en Chine.
Alors cette loi donc permettrait donc qu'un Hongkongais soit soumis à la justice de la Chine continentale, alors que l'archipel, je le disais, bénéficie de son propre système juridique. À quel point ces deux systèmes sont différents ?
Alors, ils sont totalement différents sur le plan juridique, puisque à Hong Kong, après la rétrocession de 1997, Hong Kong a conservé ce qu'on appelle le common law, c'est-à-dire la tradition britannique qui existait avant 1997 et qui est totalement différente de ce qui existe en Chine populaire. Et par ailleurs, il y a une indépendance constatée dans les faits du système juridique. Or, on sait bien qu'en Chine, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui fait peur, puisque les Hongkongais dénoncent le fait qu'une personne qui serait extradée vers la Chine ne serait pas jugée en fonction de principes de la séparation des différents pouvoirs.
Cette justice indépendante, c'est l'une des spécificités de Hong Kong par rapport donc à la Chine continentale. C'est pas la seule. Donc, il faut rappeler qu'en 1997, lors de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine, a été adopté le principe d'un pays, deux systèmes. En quoi consiste ce principe ?
Alors, c'est un principe qui a été établi lors des négociations qui se sont déroulées entre 1980 et 1984, entre la Chine et le gouvernement britannique, où finalement on a trouvé une formule qui permettait finalement à la Chine de récupérer un territoire qui fonctionnait d'une manière complètement différente de la Chine et de lui laisser 50 ans, puisque ce qui est prévu c'est qu'en 2047 en fait ce système disparaisse. Donc on a une autonomie totale sur le plan commercial, par exemple Hong Kong est toujours fait toujours partie de l'Organisation mondiale du commerce. Il y a un traitement différencié ici sur le plan financier. Enfin, quand vous regardez les statistiques sur le plan commercial, Hong Kong ne fait pas partie de la Chine. Et vous avez le système juridique que j'évoquais tout à l'heure. Donc, et vous avez une constitution, une mini-constitution, comme on l'appelle, qui est un texte qui régit en fait le système politique de Hong Kong, qui est différent de celui de la Chine populaire.
On a le sentiment, alors qu'il y a 22 ans maintenant, c'était aussi dans l'intérêt des autorités chinoises de conserver cette spécificité à Hong Kong, alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est une gêne.
Oui, alors, ça toujours, le gouvernement de Pékin a toujours été un peu gêné par rapport à cet îlot de démocratie, même si c'est pas une démocratie complète, alors que les Hong Kong réclament justement d'aller de l'avant sur la démocratie, hein, c'est ce qui avait provoqué le mouvement des parapluies en 2014, notamment sur la question de l'élection du chef du gouvernement. Ils ont toujours été embarrassés au point, d'ailleurs, qu'en 97, la Chine est revenue sur un certain nombre d'avancées du dernier gouverneur de Hong Kong, Chris Patten, qui avait fait, notamment sur les élections, fait toute une série d'avances. Donc, la Chine a toujours été embarrassée avec ce territoire.
Vous parliez de 2047. Que se passera-t-il après ces 50 ans, finalement, de parallélisme entre la Chine continentale et Hong Kong? Que va devenir Hong Kong en 2047? Est-ce qu'on le sait?
Personne ne le sait. Et ça dépend beaucoup de ce qui va surtout se dérouler à partir de entre maintenant et 2047. C'est-à-dire que si on voit une Chine qui cherche de plus en plus à contrôler Hong Kong et à accélérer quelque part, par exemple, la mainmise sur la presse ou sur ce qui se raconte dans les universités, l'éducation ou à travers ce type de loi, eh bien finalement en 2047, on aura déjà atteint pratiquement un pays, un système. Et donc en 2047, il se passera pas grand-chose.
Donc depuis 1997, en tout cas, la Chine continentale et Hong Kong évoluent côte à côte avec ces différences que vous venez de nous expliquer, menacées aujourd'hui, on va y venir. Mais je demande à notre correspondant à Pékin si ces différences sautaient aux yeux lorsqu'on débarquait à Hong Kong. Voilà ce qu'il m'a répondu un peu plus tôt dans la journée pour cause de décalage horaire.
Eh bien, ce qui frappe quand on arrive à Hong Kong, c'est, j'allais dire, une certaine décontraction. Je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. On vit ici à Pékin et dans la plupart des grandes villes de Chine continentale dans un contexte de haute sécurité, pour ne pas dire ultra sécuritaire, et quand on arrive à Hong Kong, encore une fois, on s'aperçoit qu'on peut aussi être en sécurité sans détecteur de métaux, par exemple, à l'entrée des transports en commun, dans le métro, dans les musées, la plupart des institutions, sans grappe de caméra, ces micros aussi, accrochés au-dessus de vos têtes, et qui sont vraiment partout, hein, dans les villes de Chine continentale, comme à Pékin, mais aussi partout ailleurs, et bien moins nombreuses, ces caméras, à Hong Kong. Et puis, on a aussi, tout simplement, c'est ce qu'on découvre en arrivant à Hong Kong, le droit de dire qu'on n'est pas content du gouvernement. Il n'y a pas que la loi sur les extraditions. Il arrive souvent de voir, j'en ai encore vu la semaine dernière, dans les rues commerçantes, notamment, des représentants des partis politiques, des responsables d'ONG grimpés sur des tabourets par exemple, avec un hygiaphone à la main, où il y a aussi des tentes, des affiches, des tracts pour dénoncer des mesures prises par l'exécutif ou à l'inverse réclamer des actions sur l'environnement ou d'autres sujets sociétaux. On a donc hérité de cela à Hong Kong, l'esprit de contestation et l'expression publique, en tout cas d'un mécontentement ou de tout simplement le droit d'exprimer des revendications. En même temps, et c'est là que ça coince du côté de Hong Kong, certains sur le continent aimeraient que la région administrative soit davantage sinisée. J'ai relu les dépêches de l'agence Chine Nouvelle au moment du 20e anniversaire de la rétrocession. Il y a 2 ans, par exemple, l'agence officielle se félicitait du fait que de plus en plus de Hongkongais parlent le mandarin. Elle parlait aussi d'amour, l'agence officielle chinoise, avec le nombre des mariages. En 2003, 2407 Hongkongaises ont épousé des continentaux, dit Chinois. En 2015, on est passé à 7136 mariages mixtes. Les chiffres paraissent dérisoires, mais c'est pour dire à quel point la Chine continentale a envie d'absorber Hong Kong, que la région administrative, en tout cas, épouse l'esprit du continent, si j'ose dire, avec ses contraintes liées au régime. Beaucoup rappellent d'ailleurs cette phrase de Carrie Lam, la chef de l'exécutif, lors de son arrivée aux commandes. « Depuis l'école maternelle, on doit faire entrer dans les consciences, disait-elle, le fait que je suis chinois. » Donc vous voyez, c'est aussi pour ça que les Hongkongais sont peut-être descendus dans la rue dimanche.
Jean-François Huchet, vous avez vécu 10 ans à Hong Kong. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui vous ont étonné quand vous êtes arrivé là-bas et que vous avez pu comparer justement avec la vie, la culture de la Chine continentale?
Oui, il y a énormément de différences. Outre, bien sûr, les différences en matière de liberté de la presse, liberté d'éducation. On a rappelé toutes ces campagnes sur le patriotisme. Vous avez une liberté d'expression à Hong Kong qui est sans comparaison avec ce qui existe aujourd'hui en Chine. La liberté d'association aussi. Vous avez le droit de grève, donc vous avez des manifestations. Vous avez une société civile qui est extrêmement dynamique à Hong Kong. Donc tout ça, effectivement, frappe celui qui habite à Hong Kong et qui a l'habitude également d'aller en Chine.
Avec un exemple très récent, alors évidemment les manifestations de dimanche, mais de la semaine dernière aussi, au moment des 30 ans des événements de Tiananmen, alors qu'il n'y avait aucune manifestation évidemment, aucun article dans la presse en Chine continentale, il y avait 180 000 personnes dans les rues de Hong Kong. Stéphane Lagarde évoquait la volonté de Pékin de siniser Hong Kong. Dans une enquête qui remonte à 2015, 40% des résidents se considéraient comme hongkongais. 18% seulement comme chinois, ça veut dire qu'il y a du boulot encore du côté des autorités centrales. Qu'est-ce qui, au regard de Pékin, n'est pas assez chinois dans la culture hongkongaise ?
Alors c'est très complexe, hein, parce que vous avez plusieurs strates dans la population hongkongaise. Vous avez des gens qui ont fui le régime communiste, alors leurs parents ou leurs grands-parents, et donc qui ont une histoire vis-à-vis de la Chine populaire, par moments assez tragique, hein, par moments. Et puis ensuite, vous avez des gens qui sont arrivés à partir des années 80, lorsque la Chine s'est ouverte, et même ces personnes qui sont là depuis maintenant 10 ans, 20 ans, au bout d'un certain moment donné, se considèrent presque plus hongkongais que chinois, en raison, je dirais, pratiquement de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de toutes les libertés qui existent à Hong Kong. Alors, le gouvernement chinois souhaiterait plusieurs choses, souhaiterait, alors, par la force des choses avec la démographie et puis les arrivées de Chine populaire, on a un changement dans la population. C'est le cas de Macao aussi, par exemple, qui a été totalement sinisé par rapport à l'existence du Portugal. Mais donc, on a ce changement de toutes les manières. Mais il souhaiterait qu'il y ait une éducation dite plus patriotique, qu'on mentionne un peu plus l'histoire de Chine et de la manière dont on l'utilise en Chine, c'est-à-dire avec moins de critiques. Par exemple, vous parliez de Tiananmen, le 4 juin, dans les livres d'histoire en Chine, il n'est pas mentionné, ou s'il est mentionné, il est mentionné d'une seule manière. Donc voilà, toute une série de choses qui permettraient en fait d'être plus docile et d'avoir un peu plus de sentiments patriotes à l'égard de la Chine, ce qui n'est pas le cas des Hongkongais. On l'a vu à plusieurs reprises, hein. Il y a vraiment beaucoup de Chinois qui débarquent à Hong Kong pour du tourisme. Il y a eu plusieurs incidents ces dernières années entre Hongkongais et Chinois sur des petites choses.
Des incompréhensions.
Tout à fait.
Le choc des cultures, on va dire. Notre correspondant soulignait la volonté de plus en plus manifeste des autorités de Pékin d'absorber Hong Kong, d'effacer peut-être les spécificités entre la région administrative et le continent. Vous disiez que finalement, depuis 1997, Pékin a essayé de grignoter cette autonomie, mais est-ce qu'on a vu une évolution, une période ou une présidence qui a marqué comme ça un tournant et une volonté encore plus dure et encore peut-être moins insidieuse finalement d'imposer la culture chinoise et la politique chinoise à Hong Kong.
Alors au démarrage, le principe d'un pays deux systèmes a quand même été largement respecté, à l'exception de ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que la Chine, au démarrage, est revenue sur un certain nombre d'évolutions des derniers moments des Britanniques. Ce qu'on note, effectivement, depuis l'arrivée au pouvoir de M. Xi Jinping, c'est un durcissement. Et aujourd'hui, alors c'est le cas aussi sur toutes les territoires périphériques de la Chine continentale, hein, que ce soit le Xinjiang avec ce qui se passe aujourd'hui avec les camps d'internement des Ouïghours, le Tibet, la politique avec Taïwan, l'adurcissement vis-à-vis des relations internationales quelque part. Donc Hong Kong fait aussi les frais de cela. Et on le note dans plein de domaines, des publications qui étaient faites à Hong Kong sur la Chine. On a eu un libraire qui a été kidnappé. On a également dans les universités de plus en plus d'interrogations sur la liberté pratiquement d'enseigner. On a des questions sur la presse, l'indépendance du système judiciaire. Et donc là, effectivement, on touche avec cette loi un principe même des libertés fondamentales qu'ont défendu, hein, les Hongkongais à plusieurs reprises, puisque on a eu des grandes manifestations quelquefois pour défendre ces libertés fondamentales.
Des gros coups de canif, hein, dans ce contrat de 1997, sanctionné par des grandes vagues de manifestations. Est-ce qu'on peut revenir en quelques mots alors sur trois grandes dates, 2003, 2012 et 2014. 2003, c'est un projet de loi anti-subversion qui met le feu aux poudres. Qu'est-ce qu'elle elle devait imposer à Hong Kong.
Oui, c'est le fameux article 23 de la Constitution de Hong Kong qui visait à instaurer une loi contre la sédition, mais qui était en fait, qui avait une définition extrêmement large et qui permettait, par exemple, eh bien, de condamner des ONG qui recevraient des financements de l'étranger, et donc, ou de condamner n'importe quelle personne pour des activités politiques. Donc 2003, ouais. Il y a eu des manifestations vraiment massives de la population qui ont fait reculer en fait le gouvernement hongkongais. Oui.
Autre recul, en 2012, où là, c'est l'introduction de nouveaux cours, vous l'avez évoqué, qui fait descendre les Hongkongais dans la rue. Là, c'était aussi une tentative de patriotiser, on va dire, l'enseignement scolaire, c'était ça?
Oui, il faut dire que l'enseignement aussi est très marqué par l'enseignement, les églises, qui contrôlent beaucoup d'écoles privées à Hong Kong. Et donc, il y avait véritablement un choc très fort avec le régime communiste. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé que le cardinal Zen, qui est un fervent défenseur du système démocratique, a été à la pointe de tous ces mouvements que vous venez d'évoquer.
Et puis 2014, c'est le mouvement des parapluies. Là, les autorités chinoises souhaitaient modifier le mode de sélection des candidats au poste de chef de l'exécutif. Témoignage recueilli à l'époque au milieu des manifestants.
Je suis père de deux adolescents. Je soutiens la cause des étudiants car j'ai le même rêve. Le rêve d'avoir un avenir meilleur pour Hong Kong. C'est-à-dire plus d'autonomie. Nous devrions avoir notre propre destin avec notre mot à dire sur le choix des candidats pour l'élection de notre chef de l'exécutif.
Les gens sont en colère car des manifestants innocents ont été frappés par la police. C'est du jamais vu à Hong Kong que la police tabasse des gens seulement armés de parapluies. C'est incroyable. À présent, les deux côtés essaient de faire monter la pression, c'est tout.
Alors, petite correction, donc en 2014, les Hongkongais demandaient justement plus de démocratie et les autorités chinoises, ou le gouvernement en tout cas hongkongais, a fait en sorte que les choses ne changent pas. Jean-François Huchet, les trois principaux leaders de ce mouvement ont été condamnés il y a un mois et demi à des peines allant jusqu'à 16 mois d'emprisonnement. Ils ont été reconnus coupables de conspiration pour troubler l'ordre public, d'incitation à la conspiration. Est-ce que 2014, c'est aussi un tournant pour la liberté d'expression à Hong Kong, justement avec des condamnations qu'on n'avait peut-être pas observées auparavant et qui ont pu refroidir aussi certains à descendre dans la rue?
Oui, peut-être. Alors, il faut dire que c'est un mouvement inédit, d'occuper une des places les plus centrales de Hong Kong. On n'avait jamais eu un tel mouvement à Hong Kong. Donc, c'est aussi les première demande d'indépendance de Hong Kong, ce qu'on n'avait jamais entendu auparavant. Mmh. Éventuellement, il y a des gens qui auraient bien aimé que les Britanniques restent, mais d'indépendance du territoire, on l'avait jamais entendu. Et donc ça a fait vraiment très peur à la fois au gouvernement hongkongais, mais aussi à Pékin, qui redoute qu'il y ait un mouvement d'indépendance qui émerge à Hong Kong. Donc voilà. Par contre, la loi, si elle était votée aujourd'hui, voudrait dire qu'on pourrait extrader ces personnes qui viennent d'être condamnées à Hong Kong, qu'on pourrait les extrader en Chine et ils pourraient être effectivement jugés pour d'autres, avec d'autres peines beaucoup plus sévères en Chine.
1 million donc de personnes dimanche dernier, mais l'information est-elle parvenue aux Chinois du continent? J'ai posé la question à Stéphane Lagarde, notre correspondant à Pékin.
Eh bien, la réponse est non, Marie, en dehors des médias officiels dans leur version anglophone qui ont dénoncé la collusion entre le camp pro-démocrate et les forces hostiles de l'étranger. Pas une image de la manifestation dimanche, pas un mot d'explication dans les journaux, à la radio, à la télévision, ici, la télévision centrale de Chine, sur la leçon de liberté donnée par les Hongkongais. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, en raison de la censure, certains seraient parvenus à mettre en ligne, par exemple, sur l'application WeChat, des photos de la manifestation de dimanche, mais il a fallu les mettre à l'envers pour que les légendes échappent à la vigilance des censeurs. Sinon, tous ceux qui ont tenté le coup, qui ont tenté de mettre ces images, de diffuser ces informations, eh bien, ont vu leur compte bloqué, même supprimé, sur Sina Weibo, WeChat, encore une fois, des comptes immédiatement fermés. On a donc d'un côté un enlacement physique de Hong Kong par le continent. On a vu encore, et pour le coup, les médias officiels en ont fait des tonnes, la construction cette année de cet immense pont reliant Macao, Hong Kong à Zhuhai, donc un cordon ombilical, des routes, des ponts. Et de l'autre, on a cette censure qui, encore une fois, empêche l'information ou tout simplement l'esprit à suivre, j'allais dire, de liberté de Hong Kong de diffuser sur le continent. Donc on a un échange presque à sens unique, d'autant que le rapport de force économique, lui, s'est modifié. En 1997, Hong Kong représentait 18% du PIB de la Chine. En 2017, c'est, je crois, 3%. Donc ça s'est complètement inversé, en tout cas modifié, en faveur du continent.
Jean-François Huchet, pour conclure, si la mobilisation était vraiment impressionnante encore demain, est-ce que ça pourrait se retourner contre le gouvernement hongkongais?
Oui, on l'avait vu avec les précédents mouvements, ça pourrait. Et ce week-end va être, je pense, déterminant pour savoir si cette mobilisation continue. Pékin pourrait décider de lâcher le gouvernement de Hong Kong sur cette question.
Merci beaucoup Jean-François Huchet, président de l'INALCO. Et merci à toute l'équipe de décryptage, Éléonore Krenik, Valadis Feuille, Eugénie Ducré, Julien Maguarou à la réalisation. Et merci à Stéphane Lagarde, notre correspondant à Pékin.